distance de 20 verres. La coupe Vanier au bout du pied.
C'est le but! Balle frappée solidement par White du côté gauche. Ouais. Circuit! Les Capitales qui reprennent les devants.
Pour ton sport local, écoute Cheese 94.3.
Savoir ce qui se passe chez toi, c'est le fun, mais t'as fait le tour pas mal vite, pis t'es peut-être curieux de savoir ce qui se passe ailleurs aussi.
Chez le voisin, c'est ton émission d'actualité internationale où on te garde les moments forts et inusités de la semaine qui se sont passés partout autour du globe. Animé par deux globe-trotteurs de salon attachant, on te promet de te faire voyager sans trop terminer.
Chez le voisin, c'est les mardis de 13h à 14h sur Cheers 94.3.
Hey, what's up tout le monde, c'est Young G. Je voulais vous inviter à écouter Les Architectes du son, émission 100% rap. C'est du lundi au vendredi dès 17h30 sur les ondes de Cheers 94.3 FM. Personnellement, je serai là tous les vendredis avec vous pour faire découvrir des gros sons. Donc manquez pas ça, Les Architectes du son.
Et bienvenue à cette toute nouvelle émission de Mon Disque qui est plus scratché que le tien sur les ondes de Schiste 94.3. Gabriel Tremblay à l'animation et je serai encore une fois votre Sherpa tout au long de cette aventure mélio-maniaquement nostalgique. Donc voilà, à part inventer des mots, aujourd'hui je reçois la mère poule de Schiste 94.3. Vous étiez tanné de l'entendre, mais elle revient sans cesse. Émilie Rioux,
bonjour, bon matin.
Ça va?
Ça va très bien toi-même?
Ben oui, ça va, pas pire. Aujourd'hui, tu nous proposes un méchant bon voyage. Dans le temps, hein? Émilie, en 2004, plus précisément, un band mené par un certain Billy Joe Armstrong. Certains auditeurs et auditrices l'auront deviné, mais pour les autres, on parle de quel groupe, là, Émilie?
On parle du groupe dont je porte le T-shirt en ce moment.
Oui.
De retour à mes 13 ans, on va écouter du Green Day aujourd'hui sur les ondes de Shiz. C'est un rêve que je réalise.
T'es vraiment seule, en plus, à chapeauter ce rêve-là.
C'est un sacrilège, en fait. Là, ouais. Pour vrai, il y a plusieurs directeurs musicaux qui me fusilleraient sur le champ. Mais pour vrai, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à sélectionner l'album et à me dire « OK, let's go, on y va. » Rien à moitié, on est dans le bon vieux Green Day des années 2000.
Ouais, à l'époque où le punk rock était l'âge d'or là, de la culture musicale américaine.
C'est vrai que c'était pas mal ça qui passait. Là, si on se fie à ce qu'on regardait à Musique Plus, c'était vraiment dans les Blink-182, les Green Day, les Sum 41. Début 2000, moi, ça a vraiment bercé mon adolescence. Puis c'est une des raisons pour laquelle c'est évidemment un des disques les plus scratchés que j'ai dans ma collection.
Littéralement. Est-ce que tu as eu d'autres dilemmes? Est-ce que tu avais d'autres albums sous...
Énormément. Ouais. J'en ai beaucoup parce que bon, tu sais, quand on commence une collection de CD, là, on est jeune, on en achète quelques-uns, je veux pas, on en a juste 4-5. Mm-hmm. Donc, on les écoute énormément, les 4-5-6 premiers albums qu'on a. Tu sais, j'aurais pu autant arriver ici avec du S Club 7. J'étais quand même sauvée la peine d'écouter du S Club 7 sur les ondes de Schiste.
Et tu m'as proposé 3 albums.
Et je t'ai aussi donné le choix dans cette même période-là, en fait. Là.
Ouais.
D'adolescence, j'avais In Love and Debt de The Used, que j'ai effectivement beaucoup usé. Il y avait également Three Cheers for Sweet Revenge de My Chemical Romance, mais j'avais trop peur de m'enfarger dans le titre en ondes.
C'est fait, hein?
Et Green Day, pour moi, c'était la Sainte Trinité à une certaine époque. C'était vraiment ça, les trois disques, les trois groupes par lesquels je ne jurais que par. Donc Green Day, The Used et My Chemical Romance, j'aurais soulevé des montagnes pour aller les voir en spectacle.
Green Day est le plus commercial des trois et le moins emo aussi.
Effectivement, mais c'est par là que tout est arrivé. Finalement, c'est eux qui ont ouvert la porte parce que c'est les vidéoclips, en fait, de American Idiot qui ont fait en sorte que j'ai redécouvert Green Day.
C'est un album visuel, finalement. Là.
Ben énormément. C'est un opéra rock. Puis il faut dire que c'était un gros risque à l'époque. Là, Green Day revenait d'une longue période de rien pantoute.
Ouais.
Hein? Elle avait sorti un best-of.
Ben, un album en 2002, là, une couple d'années avant. Là, il s'appelait Warming.
Warning.
Ouais, c'est ça. Warming, c'est en 2004. Il y avait 4 ans.
Début 2000. Mais tu sais, c'est super passait rien. En fait, ils venaient de lancer International Super Hit, qui était l'espèce de compilation de leurs meilleures chansons en carrière de Dookie à Warning.
Il y avait Shenanigans aussi.
Shenanigans, mais c'était pas, ces albums qui n'ont pas pogné. Pour vrai, Warning, après la chanson homonyme, ça n'a pas pogné. C'était pas super. On s'ennuyait du Green Day de Basket Case. On s'ennuyait. C'est ça.
C'est ça. Green Day a deux albums, là, Dookie puis American Idiot.
Ben, c'est parce que c'est ça. Ça fonctionnait peut-être pas très bien pour eux, mais c'est un comeback tellement réussi pour Green Day avec American Idiot que moi, je les ai connus comme ça. Et ensuite, je suis allée fouiller dans les plus vieilles chansons, puis j'ai adoré, mais j'ai vraiment accroché à American Idiot parce que j'étais pile poil le public cible. J'avais 13 ans, j'étais dans ma crise d'ado. J'avais vraiment le goût de chanter ces chansons-là. Puis c'est une histoire, c'est vraiment spécial. Hein. C'est pas un album ordinaire, c'est vraiment, c'est construit comme un opéra rock et des personnages et une histoire. Puis j'irais même jusqu'à te dire que c'est peut-être pas étranger le fait que j'ai étudié en théâtre et le fait que je sois tombée en premier sur cet album-là puis que je l'ai tant écouté de chanter des chansons qui me racontent des personnages, qui me racontent des histoires pendant toute mon adolescence. Certainement que ça a dû contribuer au fait que j'ai trippé après ça sur le concept du théâtre.
T'aurais pu aller en politique aussi, par contre, parce que c'est un... C'est un album très politisé, qui a été politisé aussi par la suite, mais qui est surtout en lien avec les attentats du 11 septembre et George W. Bush en général. Là,
exact.
C'est une dénonciation au gouvernement républicain de l'époque.
Je suis curieuse quand même. Garde, toi, bon, à l'âge que tu avais...
J'étais au primaire. J'étais au primaire, puis tout le monde achetait l'album. C'était, on l'avait tous. Moi, j'ai trippé, puis je veux dire, Musique Plus nous forçait à tripper par la bande aussi, tu sais, avec tous les clips, puis les palmarès, les top 5 anglo, puis...
Il était partout, là.
Écoute, je me rappelle, même les plus petits vidéoclips comme Saint Jimmy ont joué pendant des mois non-stop, là. Mais oui, j'ai vraiment trippé sur l'esthétique aussi des vidéoclips. Même, tu sais, American Idiot, c'est complètement débile.
Mais il va falloir
qu'on
reparle des vidéoclips parce qu'on va entendre des chansons, puis nécessairement, ça va nous faire penser, je pense, aux clips.
Ouais, c'est dommage que ce soit seulement à l'audio aujourd'hui parce que c'est un album qui est très visuel.
Exact. Mais est-ce que toi, ça t'a sensibilisé à la politique un peu, étant au primaire, ou ben non, tu t'avais vraiment évacué ce volet-là?
Je voyais qu'il y avait comme un lien de dénonciation, mais je comprenais pas du tout l'ampleur des événements. Mais même pour Wake Me Up When September Ends, en fait, ça m'a donné... Comment dire?
Le goût de t'enrôler dans l'armée.
Pas du tout. Au contraire, de dénoncer ce côté patriotique là, très fort. Là. Non, ça m'écœurait même, à la limite. Ouais.
C'est ça, je pense que l'album, toutes les chansons, tous les vidéoclips, tout ça, même, ça a été un opéra sur Broadway, finalement. Ils l'ont fait, le show sur Broadway de cette affaire-là, qui était, bon, à mon avis, pas super bon. Mais... En tout cas, ils l'ont fait quand même. Puis je trouve que c'est un album qui a vraiment rayonné chez plein de monde, pour plein de monde, puis qui a eu des échos pendant encore plusieurs années. Puis peut-être encore même aujourd'hui, cet album-là reste quand même important.
Oh oui, tout à fait.
Dans l'histoire du punk rock. Là,
dans l'histoire du groupe aussi, on s'entend, c'est leur album fort. Il n'y a même pas de contestation possible.
Tout à fait. Puis c'est pas pour rien. Puis on le réécoute, on se rend compte que c'est un album d'une grande qualité. C'est pas juste le concept, c'est pas juste l'audace. Il y a une qualité dans les liens entre tes chansons. Et ça, c'est pas tout le monde qui réussit à faire ça. C'est presque un medley d'une seule chanson, en fait, du début à la fin, tellement tout ça est bien tissé, bien ficelé ensemble. Puis c'est une des caractéristiques qui fait que quand je retourne à l'album, je m'amuse encore beaucoup à entendre des nouvelles affaires.
Ouais. C'est étonnant quand même, là, je regarde un peu la réception des critiques à l'époque et c'est pas un album qui a marqué tant que ça les médias américains, du moins, là. Metacritic l'a noté à 79%, ce qui est quand même très bon, considérant que Metacritic sont assez difficiles. Il y a un 5 étoiles dans AllMusic et c'est la plus grosse cote, sinon The Guardian c'est un 4, New Music Now c'est 8 sur 10, Pitchfork 7.2, Rolling Stone Magazine un 3.5, USA Today aussi.
Non, mais ça restait niché.
Pas tant que ça, parce que le punk rock était très fort à l'époque. C'était la musique commerciale, tu sais, My Chemical Romance.
Il était sur le cover du Rolling Stones. Il faisait toutes les revues. Il était vraiment on the spot, Green Day.
Vraiment.
Il y a d'autres qui tenaient le drapeau en avant puis dire let's go, on y va. Puis tout le monde les a suivis après.
Malgré tout, ils ont gagné un Grammy aussi pour cet album, Best Rock Album.
Mais je comprends que la critique a été un peu tiède parce que, bon, c'est pas... Il y a de la qualité musicale autrement plus complexe que du punk rock dans la vie, malgré que c'était ça qui était...
C'est ça, puis c'est un trio, là, c'est pas non plus un orchestre. Là,
exact. Ils ont quand même... Je pense que dans les circonstances, ils ont réussi à donner un album qui était parmi les plus ambitieux dans le punk rock. Et là, bon, je pense que ça peut quand même être litigieux à savoir si Green Day, ce qui classifie dans le punk rock encore, rendu à American Idiot, on est beaucoup plus dans le pop rock.
Ouais, ouais, ouais.
Je pense que leur étiquette les a quittés. Après l'album Warning, là, ils ne pouvaient plus vraiment se classifier dans le punk rock. Je pense que même leur communauté les avait ignorés complètement. Mais donc, ils sont revenus en force dans une nouvelle mouture, dans un nouveau genre, avec un nouveau look. Ouais. C'était vraiment une espèce de extreme makeover pour Green Day.
Tout à fait, tout à fait. Puis je repense, je regarde la liste de chansons, il n'y en a pas vraiment de très lourdes. Il y a Holiday qui est un peu entraînante, assez upbeat, puis Saint Jimmy, ouais. Sinon...
C'est vrai que c'est des chansons pop.
Oui, il y a des ballades incroyables, comme Wake Me Up When September Ends.
Exact. Jesus of Suburbia, ça reste pour moi le masterpiece de cet album-là. C'est lui qui présente le protagoniste, le personnage principal en plus. Et je pense que quand on écoute les paroles, on peut suivre une genre d'histoire un peu fucked up et plate à mort, l'histoire. T'as-tu déjà?
Un peu, là. Je l'avais lu à travers les paroles. C'est justement, t'as amené le CD, là. On peut comprendre un peu plus en le lisant, évidemment.
Mais tu sais, c'est l'histoire d'un gars qui se rebelle contre ses parents, qui décide d'aller vivre dans la rue, qui se fait recruter par un dude qui s'appelle Saint Jimmy, puis qui tombe en amour avec une fille qui s'appelle What's Her Name.
Ouais.
Et c'est tout. Mais c'est tellement une histoire d'ado que tout le monde peut vraiment se sentir vraiment reconnu par cette histoire-là.
Puis cette histoire-là, on la voit dans le clip justement de Saint Jimmy, tu sais, très très bien. Puis là, on voit que la fille a trompé le garçon. Là,
ah non, mais ça.
Dans un univers de punk house de béton avec plein de graffitis.
Mais c'est complètement fou. Moi, je me souviens de la journée, Gab, où le clip est sorti. Je suis dans mon cours de français avec toutes mes amies punk.
Avec des guillemets.
Nous, avec nos bracelets à stud, nos smokey eyes, puis notre défiance de l'autorité. Je me suis garochée sur mes amies le matin même en disant oh my god, avez-vous vu le clip de Jesus of Suburbia? À plus sur commande hier. Oh my God. Puis là, on a parlé de ça toute la journée.
Évidemment.
Mais tu sais, c'est pour ça que c'est marquant. C'est que c'est. On va parler des vidéoclips là, tout le long de l'heure, là, mais c'est pas pour rien. Je pense vraiment que ça a été marquant pour l'imaginaire d'une certaine génération de jeunes qui ne juraient que par Green Day à l'époque et par cet album-là, qui en ont rendu plusieurs politisés, qui en ont rendu plusieurs conscientisés de la politique américaine. Je pense que c'est non négligeable la part qu'ils ont eue avec ce disque-là.
Oui, tout à fait. Ta première émotion que tu as eue à l'écoute de l'audio, là, de l'album en particulier, pas nécessairement des vidéoclips?
À 13 ans. À 13 ans. Je dirais l'envie de partir.
OK.
C'est plus ou moins une émotion, mais c'est vraiment
un échappatoire.
L'envie de tout crisser là. C'était en fait de mon petit patelin de Saint-Mathieu-de-Rio. C'est un album qui m'a vraiment donné les ailes pour réussir à me dire que j'avais le goût de partir puis d'aller plus loin dans la
vie. Partir à Québec.
Entre autres. Non, mais c'est ça. C'est l'envie de fuir. C'était vraiment cette émotion-là qui m'habitait.
L'envie de fuir pour aller les voir en show, par exemple?
Peut-être.
C'est une chose que tu as fait?
C'était mon tout premier spectacle à vie. Parce qu'à Saint-Mathieu-de-Rio, il n'y en a pas beaucoup.
Ouais, non, c'est clair.
2005, Green Day est en tournée pour American Idiot. Et s'arrête au Colisée Pepsi, qui était à l'époque quand même la grosse affaire.
Je veux dire, le son était bon en plus au Colisée Pepsi. Oui. Je me rappelle des shows grandioses comme Muse, puis ça sonnait crissement bien.
Là. Nombre de shows que j'ai vu là. Et donc, ma mère était assez smart pour nous acheter des billets, pour nous faire un lift, moi et ma cousine que j'ai amenée. Elle a rendu là, nous a acheté de la bière même. Merci, Francine. Et tous les jeunes punks qui étaient autour au Colisée trouvaient ma mère vraiment chouette. Et je la remercie encore aujourd'hui de m'avoir drivé aller-retour pour aller voir Green Day, de s'être fait des acouphènes pour que je puisse aller voir Green Day avec, en première partie, My Chemical Romance.
Évidemment.
En tout et dans tout. Donc, ça a vraiment été le plus beau moment de ma vie pendant très longtemps, le show de Green Day, parce que, je sais pas si tu te souviens, mais il faisait monter des gens sur scène.
Ah ouais.
Il y avait une personne qui faisait jouer de la guitare sur une des chansons. Il donnait la guitare à la personne. Il y avait des mascottes qui montaient sur scène. C'était interactif. Mm-hmm. Puis pendant longtemps, c'était pour moi le modèle d'un show parfait.
Oui. Évidemment,
je me suis dit, c'est ça le show que je veux voir tout le temps, tu sais, interactif, les gens chantent, le band fait chanter le public, c'est un vraiment bon show de stadium, tu sais. Fait que ça m'a marqué, ça a été long avant qu'un autre show puisse accoter l'expérience de ce tout premier spectacle là que
genre Marilyn Manson.
Je sais pas si c'est quelque chose. Pour vrai, je pense qu'il y a rien, il y a rien qui va à côté ça. Je pense que ça va rester à tout jamais le meilleur show que j'ai vu de ma vie parce que c'était le premier, tu sais. Puis je suis contente que ça a été ça le premier. Ça aurait pu être pire.
Mm-hmm. Tout à fait, évidemment. Émilie, si t'es d'accord, on se lance dans l'écoute de l'album.
Hey, oui.
On va pouvoir avoir, on va peut-être avoir le temps de l'écouter presque en intégralité. Évidemment, on va enlever quelques chansons à la toute fin, mais du moins, on va avoir une bonne idée de c'est quoi cet album-là. Et bien évidemment, tu me coupes hein, quand tu veux, entre les chansons.
Ben, on a 13 ans aujourd'hui, c'est le temps de monter le volume. Ben, c'est ça,
exactement. Donc, on s'en va écouter. American Idiot de Green Day sur les ondes de Schiste 94.3.
Je capote.
To be in a land of make-believe, the double. hearted or am I just overjoyed? Nobody's perfect and I stand accused for lack of a better word, and that's my best excuse. We'll be right back.
Empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one.
C'était Boulevard of Broken Dreams de Green Day et l'album American Idiot. Emily, c'est la demi-heure. On est à mi-chemin dans la coupe de l'album.
On a passé les grosses tunes, là.
Quand
c'est
même.
Que c'est passé.
Jesus of Serbia, qui était interminable.
Oui, bien, c'est toutes les chansons interminables parce que dans une chanson, il y en a deux, il y en a trois,
ouais,
des fois.
Exact.
Mais là, on a passé là, les chansons que tout le monde connaît. La première moitié de l'album, en fait, a tout été fait en vidéoclip et a passé à la radio. Donc, après la deuxième moitié, finalement, qu'on va passer tantôt, ça va être les moins connus. Ceux que les gens qui avaient l'album et qui l'ont écouté connaissent.
Les puristes, quoi.
Les puristes.
Voilà. Donc, on s'en va en pause publicitaire et on continue l'écoute au retour de la pause.
Chaque midi, le Guide alimentaire canadien vous recommande de manger deux portions de fruits et légumes, une portion de viande et substituts, une portion de produits laitiers, mais surtout, une grosse portion d'informations.
Ça tombe bien. Schiste offre l'émission Les Affamés tous les jours en semaine de midi à 13h. Au menu, entrevues, actualités, débats et chroniques.
Ici Marie-Joseph Corriveau. J'avoue que je trouve ma sentence bien sévère, mais au moins grâce à ma cage, j'arrive à capter 3600 secondes d'histoire les mercredis à 18h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM.
Durant quelques heures, les musiciens, les danseurs et les spectateurs ont vibré au même rythme.
Branche-toi sur l'art et la culture d'ici. Écoute locale. Écoute Chiz 94.3.
Par le cadre du 37e Festival international de musique actuelle de Victoriaville, Chiz 94.3 est fier de collaborer avec CKUT 90.3 à la présentation du concert de Tamayuge et Disquiet Army avec Away le samedi 22 mai à 19h30. Un rendez-vous pour les arts vivants sécuritaires nous attend à Victo en mai prochain. Pour tous les détails sur le 37e FIMAV, visitez le fimav.qc.ca.
Si cinéma, showbiz, les nouvelles internationales et surtout la bonne musique tropicale. Samedi, dimanche, 13h, Radio Futura 94.3 FM, Québec, Canada. Partout au monde, www.cheese.ca. Digan lo que digan, somos la numéro uno.
Émilie Rioux, tu voulais intervenir entre la deuxième moitié de l'album.
Ben oui, vraiment.
Parce que...
Ben, il y a beaucoup de stock qui se passe dans cet album-là. Comme on le disait au début de l'émission, de l'écoute, c'est un album concept, c'est un opéra rock. C'est quelque chose qui était assez peu courant dans le domaine du pop rock, du punk rock, peu importe le rock à cette époque-là, mais qui n'est pas nouvelle. Green Day n'a pas inventé ça du tout, bien au contraire. Dans les années 70-80, c'était pas rare, surtout dans le prog même, de voir des albums concept comme ça. Et c'est là que Green Day voulait revenir. Par contre, je sais pas si tu te souviens, Gab, mais ils ont essayé de récidiver quelques années plus tard avec un autre album de genre qui s'appelait 21st Century Breakdown. Ouais. Tu t'en souviens? Est-ce que tu te souviens du succès que ça a eu?
Ben, un succès mitigé.
Ouais, c'est ça.
Mais ben, ça, on s'en rappelle quand même. C'est un album... Ben, Green Day se refait encore sur sa vague justement de American Idiot. Même aussi quand ils ont fait le spectacle pour l'ouragan Katrina avec U2. C'était une grosse tune, ça, The Saints Are Coming. Là. Moi, jusqu'à cette période-là, j'ai apprécié Green Day.
Oui, mais 21 Guns, c'était la chanson phare, disons, de 21st Century Breakdown. Moi, je l'ai presque autant écouté, 21st Century Breakdown, mais je suis bien au fait de l'échec que ça a été comparativement à American Idiot. Je pense que c'était une erreur pour Green Day de vouloir refaire encore un peu la même chose.
Ouais, oui, puis non, mais écoute, on peut pas leur en vouloir. Je pense qu'ils voulaient profiter, prendre la balle au bon, peut-être, de ce style-là. Après ça, évidemment, ça s'essouffle. C'est un album d'un siècle même là, pour un band comme ça.
Exact. Ils ne pourront pas le refaire, mais ils en ont fait un opéra rock. Moi, j'ai vu le Broadway, j'ai vu le show Broadway qui a tourné, en fait, qui s'est même arrêté à Québec, ici au Grand Théâtre. Et là, donc, j'ai vu ces chansons-là, mais refaites à la manière Broadway, parce qu'il y a quand même une certaine théâtralité, c'est grandiose. Comme tune. Et puis on le disait, il y a des personnages là-dedans. Mais bon, autant j'ai aimé ça, voir le show théâtre, autant je me suis dit, en le regardant, que je préférais de loin juste l'album. Ouais. Parce qu'il est plus rock, parce qu'il est plus raw aussi, malgré tout, malgré le fait que c'est pas du tout du punk pour moi, ça reste quand même que le côté Broadway un peu trop léché m'a pas tant plu que ça. Puis j'ai plus eu le goût de revenir à cette espèce d'impulsivité adolescente-là que j'avais en écoutant l'album. Puis c'est ça. Puis les prochaines chansons en fait qu'on va entendre dans la deuxième moitié, c'est des chansons qui m'ont appris à jouer de la guitare. Puis ça, pour moi, c'est super fondateur. J'écoutais l'album, puis j'avais le livre de partition avec moi de l'album de Green Day que j'avais acheté. Puis j'avais ma petite guitare acoustique. Puis j'apprenais à jouer chacune des chansons, je les savais par cœur. Puis pour moi, c'est ça, ça vibre beaucoup ces chansons-là en moi parce que on dirait que je veux les jouer, on dirait que j'ai ma guitare encore là, qui est à côté de moi puis qui me donne le goût de surfer là-dessus. Puis je me suis rendu compte que j'étais pas la seule. Je me suis mis à jammer avec des musiciens qui les connaissent toutes aussi. Puis c'est assez simple aussi comme chanson.
Wake Me Up When September Ends au ukulélé, mettons, ça se fait assez bien.
Je sais pas si
moi,
je ferais pas ukulélé.
Je suis pas capable de jouer, mais je suis capable de faire ça.
mais ça aussi, on va l'entendre. Là. Ça, c'est une des grosses chansons, un des gros vidéoclips aussi de l'album qui durait
interminable,
comme 11 minutes.
Ouais, 9 ou 11 minutes.
C'était un court-métrage, ce clip-là. Puis ça fait connaître d'ailleurs les deux acteurs, actrices là, qui sont là-dedans dans le vidéoclip de Wake Me Up When September Ends. Après ça, ont quand même eu une belle visibilité. Je me souviens pas de leur nom, mais ils sont super bons.
On
les voit partout maintenant.
On va les voir.
mais si on les a vus vraiment partout par la suite.
Evan Rachel Wood,
exact,
quand même. Hein? Puis Jimmy Bell, le garçon.
C'est ça. Puis
lui, on l'a vu à quelques reprises.
Exact. La première fois qu'on les a vus, ou presque, c'était dans le clip de American Idiot, de Wake Me Up When September Ends.
Tu vois, le gars était quand même connu pour Billy Elliot, par contre.
Aussi.
Evan Rachel Wood, à l'époque.
On est en 2004,
Elle a joué dans Westworld, c'est vrai, la grosse série d'HBO. Elle prêtait sa voix aussi pour La Reine des Neiges, Frozen.
Elle a joué, si je me souviens bien, dans le film aussi, Across the Universe.
Oui, tout à fait.
Donc, tu sais, vraiment, on l'a revu partout graphiquement dans le monde du cinéma. Et c'est
ouais, vraiment,
pour moi, c'est le fun parce que la première fois que je l'ai vu, c'était la fille qui disait « Oh my God! Oh my God! Oh my God! » Donc, vraiment, vraiment marquant tout ça. Puis, fait que c'est des grosses chansons. Ce qui s'en vient, c'est des trois chansons en une ou presque. Puis on risque de terminer le périple avec Wake Me Up When September
Probablement. Ce sera le mois de mai qui se termine et non le mois de septembre.
Ah, alors, rentre là-dedans, là, dans le bon vieux Green Day. Alors, tout le monde, à vos bracelets à stud. On repart ça.
Vous écoutez toujours mon disque qui est plus scratché que le tien sur les ondes de Schiste 94.3.
Skyscrapers, stargazers in my head. Brink of the church. summer has come and passed. The innocent can never last. Wake me up when September ends. Like my father's come to pass, 7 years has gone so fast. Wake me up when September ends. Here comes the rain again, falling from the stars, drenched in my pain again, becoming who we are. As my memory rests, but never forgets what I lost, wake me up when September ends.
C'était Wake Me Up When September Ends de Green Day sur les ondes de Schiste 94.3.
Grosse toune. Grosse toune.
On a presque écouté l'album au complet avec quelques raccourcis, malheureusement, ouais. Parce que l'album est très long quand même.
C'est 60 minutes si vous voulez vous taper l'exercice une nouvelle fois à la maison. 60 minutes de pur bonheur.
Et tu disais, Émilie, aussi qu'il y avait un album live.
Eh oui, Bullet in the Bible.
Pour les érudits.
Exact. Si vous avez vu le show, vous aussi, ou pas, mais que vous voulez voir l'expérience de cette énergie-là sur scène, Bullet in the Bible, c'est l'album live de American Idiot. On trouve d'autres chansons, évidemment, sur le spectacle de cette tournée-là. Mais je vous le recommande. C'est vraiment un must pour moi. C'est des beaux souvenirs. Puis je pense que je ne suis pas la seule à avoir trippé sa vie sur American Idiot en 2004, 2005, 2006. Ça fait, mon Dieu, plusieurs années, ça va fêter son anniversaire très bientôt, cet album-là.
Tout à fait. Déjà, presque.
Mais je ne veux pas calculer, je ne suis pas très bonne là-dedans, mais c'est pas grave.
Dans 2 ans, ça va faire 20 ans.
Wow!
Ça fait 17 ans.
Hey, mon Dieu, Seigneur, c'est incroyable. Bon. Incroyable. Mais merci, Gabriel, de m'avoir
invité. Merci de l'invitation, c'est toujours un plaisir. Et bien, on se voit au Club Critique mercredi.
Tout à fait.
Dès 13h, manquez pas
Est-ce
ça.
Est-ce qu'on peut parler de Green Day encore au Club Critique?
Non, malheureusement, non. Et la semaine prochaine, à mon disque qui est plus scratché que le tien, ce sera la sélection de Erika Hagen-Veilleux du groupe Bleu Kérosine.
Yes!
Donc, à la semaine prochaine.
Ciao!
Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Bord de la réveilleur Saint-Charles, boisé sur le slalom, musique zag.
Si ça nous tue, pourquoi on recommence?
Écoute locale avec Chiz 94.3.
Je suis allée au resto, collier de perles et talons hauts, parfum Coco Chanel, dans une robe en dentelle. J'avais teint mes cheveux roux, rougi mes lèvres et mes joues. Tu n'y as vu que du feu, je jouais très bien le jeu. Je t'ai suivi à la plage, chapeau blanc vert fumé, mes colliers de coquillages dans ma plus belle robe d'été. J'avais teint mes cheveux blancs, bronzé mon corps sous les néons. J'ai l'air d'une fille de Marseille, la peau gorgée de soleil. J'ai mis ma robe à poids, me vois-tu dans tes bras? J'ai mis ma robe à poids pour danser avec toi. Je t'ai croisé dans mes cours, lunettes rondes, vieux souliers, chandail de tous les jours, dans mes jeans un peu serrés. Tu te fais prendre au jeu de ma nonchalance, mes artifices astucieux amplifient toujours ma chance. Je te retrouve au bar, collier rouge et décolleté, dans ma belle robe noire, parfum de fleurs d'oranger. Puisqu'on n'a pas dansé, je changerai de personnage.